carnet de campagne, bonjour. C'est par pur hasard que nous passons du Var au Gard et non pour la rime. Par la même occasion, nous entrons dans une nouvelle grande région, l'Occitanie. Le Gard gagne petit à petit des habitants avec ses 749 000 personnes recensées autour de trois villes principales. Nîmes, évidemment, du Vigan, Alès. Au centre de la carte, les éternelles garrigues qui ne sont pas qu'une vaste plaine sèche, mais qui prennent du volume et du relief au gré des paysages. Il en sera fréquemment question de ces garrigues cette semaine et dans un petit, même pas un petit quart d'heure, qu'est-ce que je dis dans 5 minutes. L'agriculture est toujours bien ancrée dans cet espace aux côtés de la viticulture. Certains producteurs tentent d'ailleurs d'inventer de nouveaux réseaux avec un souci de limiter le gaspillage. C'est ainsi qu'est née une conserverie des producteurs d'Occitanie sous le nom de Label Doc. Sylvain Guano, producteur gardois, premier invité, un des fondateurs de cette conserverie. Et puis d'autres productions suscitent beaucoup d'intérêt en ce moment, comme celle de cette algue présentée comme l'aliment le plus complet au monde, la spiruline, d'où la création de la ferme spiruline arc-en-ciel présentée en seconde partie par Émilie Rosselou.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Sylvain Guano, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Sylvain, producteur bio, gérant cofondateur du Label Doc. Qu'est-ce que vous produisez, vous, Sylvain?
Alors, moi-même, je suis viticulteur, j'ai un petit peu de vigne, et je suis producteur de baies de goji, qui c'est un petit fruit un petit peu miraculeux, enfin qui fait partie de la catégorie des super fruits.
Ah oui, et sans pesticides?
Ah non, oui, je suis producteur bio. Oui.
Et c'est pas pour abonder dans votre sens, mais de toute façon, je suis de tout cœur avec la production bio. Mais le récent recensement des fruits et des légumes qui sont agressés de couches de pesticides, là, c'est une alarme. Ça doit conforter votre démarche.
Ça conforte ma démarche. Ensuite, concernant ma casquette de Label Doc, on est ouvert à tous les producteurs, bien entendu, y compris ceux qui sont en conventionnel, parce qu'en conventionnel, il y a énormément de gens qui ne franchissent pas l'étape du bio et qui pourtant sont à un cheveu de pouvoir la franchir.
Alors, avec vous, Sylvain, on parle d'une échelle régionale d'Occitanie, puisque vous êtes producteur dans le Gard, mais la conserverie des producteurs est installée au marché d'intérêt national de Montpellier. Est-ce que cette conserverie des producteurs d'Occitanie est née dans un esprit de lutte contre le gaspillage alimentaire?
Absolument. Elle est née avec l'objectif de traiter tout ce qui était surplus de production, tout ce qui était écart de tri, les hors-calibre, etc. Alors, toujours des produits frais, j'insiste là-dessus. Jamais des produits à moitié pourris ou abîmés. Nous, on est sur des produits qui sont sains. Simplement, ils vont être beaucoup trop gros, ils vont être difformes, ils vont être beaucoup trop petits. On va essayer de traiter tout ce qui est hors-calibre et surplus de production, plutôt que ce soit gaspillé. C'est le credo de base, en tout cas, c'est là-dessus qu'on communique et c'est là-dessus qu'on va chercher les producteurs avec leurs matières premières.
Je vois que le service que vous proposez aux producteurs est de permettre à ceux-ci de valoriser leurs écarts. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, les écarts de tri, c'est donc tout ce qui est hors norme. Un producteur qui va oublier de ramasser ses courgettes, il va se retrouver avec des courgettes énormes. Le consommateur, il a l'impression que c'est pas bon, donc il n'achète pas. Alors que c'est tout à fait bon, ça a plus de goût même qu'une petite courgette, mais du coup il se retrouve avec moins de choix, donc il va venir chez nous, nous la confier, nous on va s'en occuper, on va faire une purée, une soupe, un velouté, du chutney, des fois des confitures, alors peut-être pas avec les courgettes mais avec les courges, avec tout un tas de produits, on va essayer de valoriser au mieux tous ces produits qui sont mis à l'écart. À partir de 200-250 kilos. C'est ce qui fait un peu notre originalité et le concept. C'est un concept qui est très innovant parce qu'on prend à partir de petites quantités et pourtant on fait le plus vieux métier du monde puisque la cuisine c'est fait depuis que le feu existe, quoi.
Et vous pouvez nous dire un mot de la marque blanche?
Alors la marque blanche, c'est lorsque un charcutier, une épicerie, un magasin, quel qu'il soit, souhaite qu'on lui fabrique, que ça soit un pâté, une terrine, une soupe ou un plat cuisiné, et qu'on le mette au nom du charcutier ou du magasin. Ça va être, c'est ce qu'on appelle la marque blanche. La grande distribution pratique bien ça.
Ah bah oui.
C'est plus connu sous le nom de MDD, marque de distributeur. La marque blanche, c'est ce qu'on va faire, par exemple, pour le charcutier du coin, qui veut que son nom soit marqué sur le pot.
Pardon de citer une marque parmi d'autres, il n'y aura jamais Intermarché sur vos produits.
Ah, sur nos produits, non, non, non. Nous, on a une petite ligne de produits qui s'appelle 7E.
Oui.
C'est un 7 et un E qui veut dire 7E, ce sont eux les producteurs, un peu de mots. Non, non, 7E pourrait éventuellement se retrouver chez un ou deux Intermarchés. Mais si Intermarché, demain, nous demande de lui fournir une ligne de produits régionaux, locaux et à nos conditions, c'est-à-dire sans colorants, sans cochonneries rajoutées, ben pourquoi pas.
Le principe fonctionne bien et du coup le concept est en préparation à Toulouse et à Château-Renard. Et je signale que vous avez reçu chaque année depuis 3 ans des prix. 2015, le coup de pouce de la région. 2016, prix RSE du Club des entreprises. 2017, prix Septuor décerné par nos confrères du Midi Libre et de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Bravo donc à vous. Merci beaucoup Sylvain.
Eh bien, merci beaucoup Philippe Bertrand et à la disposition de tous les producteurs qui nous écoutent pour leur faire des propositions de conservation pour les aider à mettre un petit peu de beurre dans les épinards.
Le message est passé. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir Philippe.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand sur France Inter.
Venons-en aux garrigues dont je vous parlais en ouverture. Les garrigues, pour leur variété naturelle, font l'objet d'une mise en valeur par des passionnés de ces ensembles, dont le collectif des garrigues qui nous a écrit, auteur d'un atlas en 2013. Ce collectif rappelle à l'ordre le visiteur. Quand vous pensez au sud de la France, vous pensez, vous imaginez dans la Méditerranée, à nager ou à visiter le pont du Gard. 1,5 million de visiteurs chaque année au passage. Ou encore assister à une course camarguaise. Mais auriez-vous eu l'idée de vous promener en garrigue à la découverte d'un patrimoine unique et riche d'histoire? Réponse pas vraiment ou pas du tout. Pourtant, sur les 340 000 hectares de garrigue qui s'étendent entre le département du Gard et celui de l'Hérault, il y a la grande histoire des pierres qui poussent. Cette terre pauvre, brûlée par le soleil, était recouverte de pierres qu'il fallait dégager pour cultiver des lopins de terre qui s'offraient aux premiers habitants. C'est de la préhistoire que vient la pierre sèche que les hommes ont utilisée ensuite pour construire les murs, les abris innombrables qui parsèment ces terres arides. Ce patrimoine se réveille grâce aux bonnes volontés de collectifs comme celui des garrigues. Ce dernier, d'ailleurs, se prépare à publier un nouveau guide de découverte des sites en pierre sèche. Une campagne de financement participatif est en cours. Le guide va couvrir 20 sentiers de découverte. Et sur la page financement, vous pouvez apporter votre contribution qui vous donne droit au minimum à la réception du guide une fois sa publication réalisée. Alors vous trouvez le lien sur la plateforme KissKissBankBank et vous trouvez aussi le lien à nos pages d'émission. Et puis il y a une page Facebook Collectif des Garrigues. Émilie Rousselou, bonjour.
Bonjour.
Émilie, vous êtes, comment on dit, spirulinière?
Exactement, c'est vrai, on dit spirulinière pour les filles, spirulinier pour les hommes. C'est donc le métier que l'on pratique, qui est donc de récolter de la spiruline et pour la faire manger aux gens qui nous entourent.
Ouais, que vous produisez dans la ferme familiale avec votre mari Franck Lépinet, installé à l'Est depuis juin 2013. Il y a quelques années, on avait présenté un des premiers qu'on rencontrait dans les carnets de spiruliniers. C'était encore un phénomène rare. On avait découvert une algue qui était une sorte de remède mondial à la famine, qui est l'aliment le plus complet qui existe au monde. On a eu beaucoup de retours et on sentait un regain d'intérêt pour cette algue. Et aujourd'hui, la fédération, parce qu'elle existe, Fédération des spiruliniers de France, voit son nombre d'adhérents augmenter d'année en année.
Complètement. Effectivement, vous avez fait un magnifique résumé. C'est vrai que la spiruline, c'est une cyanobactérie qui a 3,5 milliards d'années d'existence. Donc c'est un des premiers êtres vivants sur Terre qui a permis l'apparition de l'oxygène et donc de la vie sur Terre. Et en France, on a la particularité, c'est vraiment une originalité de notre pays, d'avoir des fermes de spiruline paysanne qui produisent ici sous serre, en recréant en fait les conditions de vie de cette cyanobactérie qui vit à l'état naturel dans les régions tropicales. Et on est presque 150 aujourd'hui producteurs français. Et en fait, on augmente de 20 à 30% par an. parce que bah voilà, c'est une filière qui est très appréciée, les gens sont contents de manger de la spiruline, en ressentent les bienfaits. Et puis, bah, nous, on fait de notre métier avec tout notre cœur.
Oui. Alors, vous la traitez, vous la transformez, les séchez grâce à un séchoir solaire. Après, elle se présente sous quelle forme ?
Alors, en fait, la spiruline, quand elle pousse dans les bassins, donc on voit une eau qui est verte, parce qu'elle-même, sa couleur extérieure, on va dire, est le vert. Elle est microscopique, donc elle est en forme de spirale qui pousse. Donc, il y a des millions, des milliers, des milliards même de petits filaments spiralés dans nos bassins. Donc nous, quand on les récolte, c'est à peu près une centaine de fois par an, on les filtre en fait avec un filet très très fin, et on obtient une sorte de pâte. Et le mode, le geste, on va dire paysan, qui est le nôtre, en fait, c'est de la presser, puis de la faire sécher sous forme de spaghettis.
Ah oui.
C'est des très fins spaghettis qui font entre 1 et 2 mm de diamètre, qu'ensuite on casse, et donc on obtient des petites brindilles, des petites paillettes, qu'on mange à peu près une cuillère à café par jour, par personne.
On peut mélanger la spiruline telle qu'elle est transformée et séchée, comme vous l'avez présentée, à d'autres aliments et dans des plats. Il y a une cuisine autour de la spiruline maintenant.
C'est vrai que ça fait plaisir parce que vous reparliez de l'historique. Donc au début, les gens étaient habitués ils connaissaient pas cet aliment. Donc en fait, ils n'étaient pas habitués à la manger. Puis maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y a même des chefs qui commencent à s'intéresser à la spiruline. Ce qui compte, c'est de la manger crue, parce que nous, donc, on s'évertue à la sécher à basse température pour préserver les vitamines et tous ces nutriments. Donc c'est intéressant de continuer de la manger crue en la saupoudrant sur les crudités, en faisant un guacamole, des tartares, des pistous. On peut la mettre aussi dans des produits sucrés. Enfin voilà, il y a plein de manières de la manger. Moi, mes enfants, par exemple, ils l'aiment bien saupoudrer sur leurs plats. Hein. Ils mangent des pâtes ou du riz, tout bêtement, on la saupoudre dessus et voilà.
Et puis alors chez vous, on peut visiter la ferme Spiruline Arc-en-Ciel et découvrir votre technique.
Tout à fait, on peut la visiter. Donc notre ferme est ouverte au public selon les saisons. Tout est inscrit sur notre site, mais c'est entre une et trois fois par semaine. Donc c'est gratuit, évidemment. Les gens peuvent venir, y voir, on la montre au microscope, on explique notre métier, on montre nos outils. Puis après, bah voilà, les gens peuvent l'acheter s'ils ont envie. Et en fait, le dernier week-end d'avril, on participe à un week-end porte ouverte au niveau national qui s'appelle De Ferme en Ferme. Donc là, il y aura un grand week-end tout public ouvert où les fermes seront ouvertes, dont la nôtre, à toutes les familles et tous les gens qui ont envie de découvrir les produits du terroir.
Oui, c'est 29 et 30 avril. D'ailleurs, le site, c'est defermenferme.com. Une dernière chose, Émilie, ça a quelle odeur, la spiruline ?
Ah bah ça, c'est rigolo, parce qu'aux dernières rencontres, on a justement fait des essais de dégustation.
Oui.
Et c'est vrai que, comme vous disiez, c'est un aliment qui est encore pas très connu, donc c'est difficile de qualifier, parce que bon, il faut, ça peut aller de champignons à odeur de sous-bois à algues. Ça dépend un peu des nez, je dirais. Puis ça dépend des spirulines aussi. Mais c'est vrai que les spirulines paysannes séchées donc à basse température ont cette qualité-là, d'avoir un goût et une odeur beaucoup plus neutre que des spirulines qui sont plus exposées à la chaleur.
Voilà. L'odeur de sous-bois, moi, ça me plaît bien.
Oui, c'est ça.
On va goûter. Spirulinearcenciel.fr pour l'adresse de la ferme d'Émilie de Franck, et puis la page Facebook spiruline.arcenciel, et vous trouvez directement, vous avez accès au site de la ferme. Merci Émilie.
Ben, merci beaucoup.
Demain, les carnets dans le Gard, toujours avec des habitants qui ont décidé de se prendre en main, de se prendre en charge et de créer un parc régional qui est en cours de préparation. Il devrait s'appeler le parc naturel des Garrigues, vous voyez, on y revient. Et puis une association, Les Locataires, née de musiciens jazz professionnels qui marient leur musique à une fanfare amateur qu'ils ont eux-mêmes créée. Puis un petit rappel, fin mars, nous serons dans le département de la Charente, ensuite en avril en Dordogne, dans l'Aude, dans l'Ariège et dans la Haute-Garonne. Merci pour vos messages.